explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. C'est l'histoire d'un écrivain voyageur qui, après avoir parcouru le monde, décide de devenir berger. Mais l'aventure paysanne vire au cauchemar. Submergé par les dettes, la paperasse administrative et les conflits familiaux, au bout de 7 ans, il doit se résoudre à renoncer et vendre son troupeau. Notre infortuné berger, Édouard Cortès, est alors au plus mal, épuisé par la tâche, miné par les remords et la culpabilité. Mais dans un dernier réflexe, avant de sombrer, il décide de se réfugier au sommet d'un chêne centenaire, au fin fond d'une forêt du Périgord. Dans une cabane construite de ses mains, il va vivre au plus près de la nature, entre terre et ciel, le temps d'un printemps, avec la ferme intention de renaître en même temps que son arbre bourgeonne. Un voyage immobile au cœur d'une forêt qu'il raconte dans un livre très touchant, intitulé « Par la force des arbres » aux éditions Équateur. Cet après-midi, Édouard Cortès nous emmène bivouaquer dans son chêne, là où il a repris goût à la vie. Et en fin d'émission, nous embarquerons pour le Vendée Globe avec le compositeur de musique électronique Romain Delahaye, alias Molécule, qui a équipé de micros le voilier du skipper Thomas Ruyant. Voilà pour notre feuille de navigation aujourd'hui. Cette émission est réalisée par Étienne Bertin et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Mathias Alléon.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Tu l'entends ?
Ouais.
Elle est juste à côté.
Ah, on entend le pic aussi.
Oui, on entend le pic derrière. C'est une maison de charbonnière, celle-là. C'est la putaine, c'est celle qui vient nous réveiller à la sieste pour dire qu'il n'y a plus de graines. Elle rentre dans la cabane et elle vient nous sauter sur le ventre, je te jure. Le vent ?
Ouais.
Le vent se lève aujourd'hui. Et tu vois, pour les mésanges, là, ça ne change rien à leur vie. Hein. Ben, peu importe. Mais moi, je sais que ce soir, ça sera moins tranquille qu'hier. Sous nos pieds, ça tangue. Et on voit les arbres en face qui se rapprochent les uns des autres pour aller s'effleurer, s'embrasser, malgré la timidité des arbres. Le vent les force à se côtoyer.
Bonjour Édouard Cortès.
Bonjour Daniel Fievé.
Nous entendions à l'instant un adepte des cabanes dans les arbres, Xavier Marmier, au micro d'Antoine Chao, perché dans la cabane qu'il s'est construite. Les sensations qu'il décrivait, je vous voyais hein, les écouter avec attention, ce balancement, la proximité des oiseaux, ça vous évoque beaucoup de souvenirs.
Oui, parce que je me suis perché donc à 6 mètres de haut pour un printemps, pour 3 mois. Et il y avait quelque chose de curieux dans ma relation aux oiseaux, c'est que j'étais venu pendant un printemps pour les observer. Et au bout de quelques jours, je me suis aperçu que c'était eux qui m'observaient. Ouais. J'étais dans une cabane très étrange, puisque j'avais passé un mois à construire ce petit nid. C'était une cabane toute vitrée, donc je voyais à 360 degrés. C'était un petit observatoire, un observatoire sur la beauté des forêts. Et j'avais vraiment l'impression d'être le singe ou l'oiseau dans une volière que les autres regardaient.
Ouais. À quoi ressemblait-il ce chêne dans lequel vous avez vécu pendant 3 mois ?
C'est un grand chêne perdu au milieu d'une forêt du Périgord noir, entre Sarlat et Rocamadour, dans un grand massif forestier vallonné dans les fins du massif central, c'est un massif calcaire. Et ce chêne, il est très particulier parce que c'est un vieux chêne, je dirais entre 120, 150 ans, avec des branches très larges. Mmh. Et puis autour, l'exode rural a permis à une forêt de jaillir autour de lui. Donc il y a plein de petits arbres qui sont ses descendants autour de lui. Et lui trône en majesté en haut d'une colline et au milieu de ses enfants, si on peut dire.
Ouais. C'est ça, c'est le patriarche, hein, vous le dites. Il a démarré sa vie au temps où Pasteur inventait les vaccins. Il a été jeune pousse quand s'élevait la tour Eiffel. Vous êtes admiratif, finalement, cette force tranquille qui se dégage de cet arbre vous réconforte.
Oui, c'est rassurant un arbre. Et d'ailleurs, dans ces temps un peu anxiogènes que nous traversons entre la pandémie et les attentats, il est bon de se rapprocher des arbres et de voir qu'il y a quelque chose de très rassurant. Mmh. Autrefois, les hommes se réfugiaient dans les arbres pour se protéger des bêtes sauvages. Mmh. On prenait de la hauteur. Puis après est venu le vieux cri médiéval, au donjon. On filait au donjon pour se réfugier et prendre de la hauteur également. Mmh. eh bien, je crois qu'il est bon aujourd'hui, dans un temps un peu sombre, d'aller aux arbres. Ouais. Donc, aux arbres. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a, mes aventures agricoles, m'a fait crier aux arbres.
Eh oui, c'est ça. Hein. Vous citez d'ailleurs Cyrano, qui est en train de s'effondrer, ne veut l'aide de personne, d'aucun humain autour de lui, qui veut juste un arbre pour le soutenir. Vous, c'était votre cas. Cet arbre, ça a été votre bouée, votre dernier recours. Vous sortiez de cette expérience agricole, vous souhaitiez devenir berger. L'expérience a duré 7 ans, ça s'est très mal passé. Pourquoi ça s'est très mal passé?
Parce que je partais sans doute dans l'aventure agricole avec un peu de naïveté, déjà, premièrement, celle d'un citadin qui arrive à la terre. Donc il y a beaucoup de naïveté, ça c'est une première chose. Et puis parce que je ne voyais pas à quel point je comprenais que la tâche d'éleveur de brebis était une tâche compliquée pour soigner les brebis, pour agneler, pour les protéger, etc. Mais je n'avais pas vu à quel point la tâche administrative et tous les à côté agricoles étaient compliqués. Et donc j'ai petit à petit sombré à la fois par manque de trésorerie, toutes les tracas d'un paysan ou d'un commerçant qui veut faire un travail à petite échelle. Il aurait fallu que je passe dans des échelles industrielles pour pouvoir gagner correctement ma vie, ce que je ne voulais pas.
Et cette expérience vous a fait perdre votre confiance en vous. Hein. Vous le dites, une assurance qui venait en partie des nombreux voyages que vous aviez faits avant de vous installer comme berger, parce que vous avez été un grand voyageur. Hein. Vous avez effectué des périples à pied sur des milliers de kilomètres. À l'âge de 21 ans, vous faites une marche de 1800 kilomètres avec deux amis pour traverser le Caucase. Vous partez de la mer Caspienne pour arriver à la mer Noire. Peu après, vous repartez en deux chevaux, cette fois pour aller jusqu'en Afghanistan. Vous le refaites ensuite en deux chevaux jusqu'à Saïgon. Donc il y avait cet esprit d'aventurier, cette confiance que vous aviez en vous. Et ça n'a pas... Tout ça est parti en fumée.
Tout s'est effondré. Alors je dirais que non, parce que les voyages forment la jeunesse. Donc évidemment, il y avait mais il n'y avait plus de ressort intérieur. C'est-à-dire qu'il restait ce que m'ont offert les voyages, un enchantement, un dépaysement, mais il n'y avait plus de ressort pour activer tout ce que m'avait offert le voyage. Et donc, j'étais à bout de souffle. Hein. C'est Aristote qui parle de l'épuisement de l'âme. On arrive à bout de souffle et je ne voyais pas quelle solution pour dépasser les tourments dans lesquels j'étais rentré. Des forêts noires, des forêts obscures, tout était devenu très sombre et je cherchais un moment de clarté et je me suis souvenu de mes voyages justement en me disant que là où je me suis senti le mieux en voyage, certes c'était pendant les rencontres, mais c'était aussi en pleine nature, en forêt, quand le silence, le temps s'arrêtait de couler et que je pouvais traverser ces grands espaces verts.
Alors il y a quelque chose dans votre démarche qui rappelle celle de Henri David Thoreau, philosophe et naturaliste américain qui a vécu au 19e siècle. Il a écrit sur la marche, mais son livre le plus connu s'intitule « Walden ou la vie dans les bois ». Inspiré de sa vie, il raconte comment et pourquoi il se retire dans les bois, dans une cabane qu'il va construire lui-même.
Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. Couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa simple expression, et si elle se découvrait mesquine, eh bien alors, en tirer l'entière, authentique mesquinerie, puis divulguer sa mesquinerie au monde. Ou, si elle était sublime, le savoir par expérience, et pouvoir en rendre un compte fidèle dans ma suivante excursion.
Un extrait de Walden ou la vie dans les bois de Henri David Thoreau, lu par Guillaume Gallienne. Vous aviez en tête cet ouvrage quand vous avez décidé d'entreprendre votre retraite à vous, dans les bois, Édouard Cortès?
Bien sûr, évidemment, parce que c'est le retrait du monde. Virgile appelait ça l'osium, c'est-à-dire le retrait des affaires du monde. C'est exactement ce que fait Henri David Thoreau quand il s'échappe. Il dit qu'il se retire des affaires du monde et il essaie de prendre un peu de hauteur. Je pars de la même démarche, essayer de prendre un peu de hauteur sur ma vie Et puis, essayer de prendre un peu de hauteur. À 6 mètres de haut, c'est pas bien haut dans un chêne. Ouais. Voilà, mais d'aller faire un peu le gland dans un chêne pour prendre un peu de hauteur sur le monde.
Ouais. Il y avait une coupure vraiment radicale. Hein. Déjà, avant de partir, vous coupez tous vos réseaux sociaux, vos comptes. Est-ce que vous aviez ne serait-ce qu'un téléphone portable dans cet arbre ?
Non, j'avais pas de téléphone portable. Et fort heureusement, j'ai essayé vraiment de me couper les réseaux et de rentrer dans la sobriété heureuse dont parle ouais. Henri David Thoreau, vraiment cette simplicité. Donc j'avais l'eau d'une source, j'avais un peu de gaz pour faire ma cuisine, et puis ma cabane, mon petit nid était construit entre quatre branches charpentières, tout était fait en bois, j'avais un matelas quand même, un lit, mais je vivais dans 6 mètres carrés, donc tout petit. En revanche, j'avais une grande vue sur les arbres, et j'ai essayé de vivre d'une certaine manière la simplicité volontaire en m'affiliant à Henri David Thoreau.
Vous allez nous raconter ce voyage immobile à hauteur d'arbre pendant 3 mois dans une forêt du Périgord. Édouard Cortès nous emmène bivouaquer au sommet d'un grand chêne cet après-midi sur France Inter. It's late, getting later. Later on. Have you faith? It ain't water. Ain't Water, c'était Alison Mossart sur France Inter.
Ici, on est sur le sentier de la Bourrique. Ça s'appelle le sentier de la Bourrique.
Il y a un petit torrent qui passe en bas.
Il y a un petit torrent qui passe en bas, oui, bien sûr. Alors là, on est joué ici, on faisait nos baraques dans les arbres.
Qu'est-ce que c'est comme arbre?
Ben, ce sont des frênes.
Oui, qui sont élancés. Hein. Oui. Et puis tout à coup, on aperçoit ce qui reste de ce qu'ont été ces cabanes qui ont été construites comme ça sur les hauteurs.
Sur les hauteurs. Comme là, on en a une qui est à peu près à 8 mètres, avec deux plateformes avant d'y arriver. Et puis alors, dans les arbres, il y avait on faisait des échelles avec des qu'on clouait ou qu'on attachait avec de la ficelle et des cordes pour arriver dans nos fameuses baraques.
C'est difficile à construire comme ça sur la cime des arbres.
Pour nous, c'était pas difficile.
Comment fait-on?
C'était un véritable plaisir. Il y en avait un qui commençait à monter, et puis on avait des cordes, on montait les morceaux de bois avec des cordes, comme les charpentiers. Et puis alors, petit à petit, on construisait nos fameuses baraques.
avec des planches qu'on récupérait par-ci par-là, n'importe quoi. On plantait des clous partout, mais là, hein, ils n'aimaient pas trop les parents. Parce que quand ils coupaient les arbres, ils trouvaient les clous dedans. Ils n'aimaient pas.
Pour les scies.
Pour les scies, voilà.
Un bûcheron, Gilles Mangel, sur France Culture en 1995, évoquant avec nostalgie les cabanes de son enfance. Édouard Cortès est notre invité. Vous racontez dans votre livre « Par la force des arbres » aux éditions Équateur comment vous avez repris goût à la vie en vous réfugiant dans une cabane, dans un arbre pendant 3 mois. La forêt dans laquelle vous avez construit votre cabane est aussi la forêt de votre enfance. C'est très lié à l'enfance, cette histoire de cabane.
Oui, c'est des rêves d'enfant. C'est des rêves d'enfant. Et vraiment, j'ai eu cette joie de pouvoir faire ce rêve d'enfant avec, à la vie d'adulte, oui. à 39 ans. Donc c'est génial. Donc j'avais les moyens d'un adulte, la force d'un adulte, et j'avais le rêve.
Les outils.
Ouais, les outils. J'avais mes outils agricoles que j'ai reconvertis pour la construction de la cabane. Donc j'avais de bons moyens. J'avais aussi cette idée de que la cabane épouse l'arbre. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à prendre des mesures. Je prenais les mensurations de l'arbre pour que la cabane soit vraiment un petit bijou d'architecture et posé comme un nid dans l'arbre. Mais c'est oui, c'est un peu retour en enfance, mais et pourquoi pas? Un peu comme un voyage. Ouais. On se retire du monde, on s'extrait pour un temps du monde, et puis on essaie de retrouver un peu la douceur de l'enfance.
Ouais. Alors avant de construire cette cabane, il a fallu choisir l'arbre. Hein. Vous nous avez décrit ce superbe chêne, plus que centenaire, hein, de 150 ans que vous avez choisi. Dans la forêt dans laquelle vous vous trouviez, il y avait des chênes, des hêtres, mais aussi des tilleuls, des châtaigniers, des érables, des merisiers. Vous saviez dès le début que ce serait un chêne, ou vous avez hésité? Vous avez passé 5 jours à le chercher, votre arbre.
J'avais une hésitation avec un hêtre. Ouais. D'ailleurs, pour ce que ça donne de la vie, un hêtre, hêtre. Voilà. Oui. Et je trouvais ça beau aussi d'aller se percher dans un hêtre. Pour ouais. À moi, à presque 40 ans, j'avais des questions existentielles, donc c'était intéressant. Et puis j'ai penché pour le chêne parce que j'en connaissais plusieurs, et puis celui-là me parlait particulièrement. Déjà techniquement, 4 branches charpentières permettaient de c'était plus facile pour mettre un premier plancher. Ouais. Et puis également parce que il y a toute une symbolique dans le chêne qui est très belle, ouais. et qui traverse l'histoire européenne autour des druides. Le chêne, c'est aussi la puissance. Les Grecs qui écoutaient dans le bruissement des feuilles de chêne les oracles parler. Ouais. Donc on peut le rattacher à toute une tradition. Les glands de chêne qui sont la force ou la puissance, ouais. ou le porte-bonheur. Et donc je trouvais aussi symbolique que, essayant de me reconstruire, je prenne un arbre qui symbolise la puissance ou la force.
Et puis les animaux de la forêt vous confortent dans votre choix, puisqu'après l'avoir choisi, vous revenez sur place quelques jours plus tard et vous trouvez 2 superbes cerfs au pied de votre arbre. Et ça, pour vous, c'est un signe.
Oui, c'est un signe un peu à la manière dont les anciens, j'ai été berger pendant 7 ans, donc on regarde les troupeaux, on regarde où se placent les animaux sauvages, et quand on voit où se placent les animaux sauvages, on se dit voilà, là il y a quelque chose, parce que eux sentent des choses que nous ne sentons pas dans la nature, comme les arbres qui communiquent, et je me disais, la meilleure place, c'est peut-être celle qu'on choisit, ces cerfs, et ils sont venus confirmer le choix de ce grand chêne.
Et alors vous allez donc construire votre cabane, ça va vous prendre du temps, hein, à raison de 5 à 7 heures par jour pendant un mois. Et au fur et à mesure que vous la construisez, cette cabane, vous avez déjà l'impression que en vous s'opère une certaine reconstruction. Ça vous fait du bien de construire cette cabane?
Oui, déjà concrètement, je reprends du travail, je ne tourne plus en rond dans ma tête, les idées, j'essaie de chasser les idées noires. Et puis j'ai essayé de réemployer ce que j'avais utilisé comme paysan. Et donc j'ai repris les barrières de mes brebis. Je les ai démontés pour faire le parquet ou pour faire mon lit. J'ai forgé par exemple un gros couteau des forêts, un couteau des bois. Ouais. J'ai réutilisé la baramine qui me servait à planter les piquets pour mes clôtures de brebis. Ouais. J'ai réutilisé comme ça plein de choses. Et alors j'avais l'impression que c'était pas totalement un échec, ma vie agricole, que je pouvais transformer les choses.
Et elle est superbe, hein, votre cabane. Alors, on va la décrire, mais on a mis une photo à la fois sur la page du site internet du Temps d'un Bivouac et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui voudraient avoir une représentation. Mais vous parlez, alors vous la surnommez avec différents qualificatifs. Vous parlez de votre yourte sylvestre, de votre orangerie aérienne, parce qu'effectivement, elle est entièrement vitrée. Vous avez récupéré des portes-fenêtres à petits carreaux, mais vraiment, ça fait comme une lanterne, et vous le dites, c'est une lanterne perchée sur ce chêne. Vous êtes fier du résultat. Elle est superbe, votre cabane. Hein,
oui, parce que je ne m'attendais pas. J'avais fait des cabanes de gamins, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte quelque chose de mes mains, surtout à un moment où j'étais un peu découragé. Et puis tout d'un coup, voilà, comme quoi l'arbre, je reprends Cyrano, rien que l'arbre. Ouais. C'est venu. Et puis j'ai vu que mes mains suivaient l'idée de cette cabane. Tout d'un coup, c'est sorti. Mm-hmm. Peut-être comme un artiste qui modèle la glaise ou qui essaye de faire une sculpture ou un tableau, c'est sorti. Ouais. Et puis effectivement, j'en étais content. Et donc c'était une première étape d'être content de cette petite oikos, ce petit lieu, ce premier lieu de refuge.
Lieu de refuge dans lequel, au bout d'un mois, vous allez vivre. Le temps est venu d'habiter la forêt. Comment se déroulaient vos journées dans cette jolie cabane, certes, mais pas bien grande? Et il vous arrivait d'y passer des semaines entières, une semaine entière, sans en descendre?
Alors j'avais une vie de confiné volontaire,
oui,
mais assez presque avec un rythme assez soutenu monacal, je dirais presque, oui, puisque c'était une forme de retraite. Et donc c'était rythmé sur le rythme du soleil, le lever et le coucher du soleil. Ça, c'était mon rythme naturel. Je suivais globalement la lumière. Et puis ensuite, un peu de sport pour ne pas m'engourdir, de l'écriture, de la lecture. Mmh. Mais tout était donné à l'observation. C'est-à-dire que c'est par les yeux, par mes sens, par l'odorat, par l'ouïe, que j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Mmh. Et donc j'essayais, à chaque fois que, par exemple, j'étais en train de faire des pompes pour faire un peu de sport, arrive un chevreuil, je m'arrête, je suis silencieux, mmh, je prends les jumelles, je regarde. Viennent les bourgeons le matin ou les fourmis qui traversent mon arbre, le lys martagon qui éclot ou l'autour des palombes pendant l'orage, je m'arrête. Tout de suite, j'arrête mon activité et j'observe le plus longtemps possible. Et j'ai passé comme ça un temps de dingue à observer des fourmis, par exemple.
Alors, au plus proche de la nature et aussi au plus proche des éléments. Ça, vous l'avez vécu dans votre cabane, hein, des orages, le tonnerre qui gronde, la pluie qui martèle les feuilles autour de vous. Comment on vit un orage à 6 mètres de haut, perché dans une petite cabane, dans un chêne?
Pour quelqu'un qui voulait être tranquille au sommet d'un chêne, là j'étais dans une certaine forme d'inquiétude. Ouais. Quand l'orage est venu, il en est venu au moins 2 ou 3 puissants. J'avoue que je tremblais, j'ai mal dormi évidemment. Mais c'était aussi une expérience de la... d'être dans le sauvage. On se croit toujours, on regarde toujours la nature avec une idée que on accompagne la nature. Moi, je voulais vivre comme vraiment ne pas traverser la forêt, mais vraiment être dedans. C'est pour ça que le voyage immobile, il est intéressant, parce que effectivement, des aventures nous arrivent alors qu'on est resté sur un point fixe, on est resté dans un chêne.
Vous parlez de, à ce moment-là, votre cabane, vous la comparez à un radeau pris dans la tempête. Faut imaginer que ça tangue, une cabane dans un arbre, ça bouge. À ce moment-là, on doit plus se sentir si en sécurité que ça, vous qui cherchiez à être assuré dans votre...
Non, j'avais bien peur que je finisse comme la chaîne du Fable et du Roseau. Ouais. Vous savez, le chêne s'écrase.
La Fable du chêne et du Roseau.
Voilà. Et j'avais peur de ça. J'avais peur que le chêne finisse par tomber. À bas. Le matin du premier gros orage, il est arrivé surtout, il a fallu que j'écope comme dans un bateau.
Oui.
C'est-à-dire que tout était trempé, mon toit n'était pas si étanche. Après, j'ai un peu étanchéifié, j'ai mis de la mousse, etc. Mais le premier matin de gros orage, j'étais dans l'eau, dehors et dedans.
Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quelle période pour vous installer dans cet arbre. Hein. C'était au début du printemps, donc les nuits sont fraîches. Au début de votre... On a envie de dire périple, même si c'est un voyage immobile. Au début, les nuits,
c'est un périple, oui.
C'est un vrai périple, hein, on est d'accord. Et puis, petit à petit, la nature reprend ses droits autour de vous. Alors en plus, en ordre dispersé, vous dites tous les arbres ne tirent pas en même temps. Votre chêne n'est pas le premier à bourgeonner. Il y a déjà des érables au loin qui bourgeonnent. Et vous avez vu comme ça la sève remonter, la vie reprendre ses droits dans le chêne que vous habitiez.
Oui, j'ai eu quelques indications d'ailleurs, parce que c'est les fourmis qui m'ont indiqué que la sève était arrivée. Elles sont allées voir les pucerons eux-mêmes qui étaient sur les bourgeons, qui têtaient la sève. Et c'est comme ça que j'ai eu l'indication que ça y est, la sève était montée au bourgeon et que ça allait débourrer. On dit débourrer pour un arbre. Mm-hmm. Et puis, tout d'un coup, est venue l'explosion. Quelques jours après que je sois monté dans l'arbre. Et là, c'était, pour moi, c'était comme j'avais essayé de retrouver cet émerveillement de l'enfant face au tracas de ma vie. J'ai eu l'impression de flocons verts qui débarquaient sur l'arbre. C'est la puissance de l'émerveillement face à ces désillusions d'adultes et ces illusions d'enfants.
Ouais. Dans ce monde, vous étiez un petit peu coupé du reste du monde. D'ailleurs, vous apprenez quelques jours après l'incendie de Notre-Dame, vous l'apprenez quelques jours après, alors que en France on parle que de ça partout. Vous, l'information met plusieurs jours à vous parvenir parce que chaque semaine, chaque week-end, votre femme et vos enfants viennent vous voir. D'ailleurs, ils avaient vu d'un bon œil que vous alliez vous ressourcer dans cet arbre. Ils étaient pour cette espèce de cure, de retraite, mais ils viennent vous rendre visite. Et c'est comme ça que vous avez appris pour l'incendie de Notre-Dame. C'est ce sentiment que le temps ne s'écoule plus de la même manière, qu'on n'est plus dans le reste du monde. Vous l'avez profondément ressenti.
Oui, mon arbre, il a entre à peu près, on pourrait dire 140 ans. Il est dans un autre temps, il est dans un autre espace, et j'ai aimé coller à lui pour essayer de rentrer dans une autre dimension du temps, celle de la lenteur, celle que je n'arrive plus à avoir aujourd'hui entre les écrans, les mails, les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai quitté les réseaux sociaux, mais celle que j'arrivais plus à avoir, c'est-à-dire trouver une respiration hein, dans le temps et dans le vert de la nature. Eh bien, là, mon chêne m'a donné une vraie respiration, une vraie leçon par rapport au temps. J'ai pris du temps libre et petit à petit, ce temps libre me donnait d'essayer d'être libre.
Alors vous vous sentez à votre place, petit à petit vous vous enforestez, comme vous dites. On peut vivre heureux dans la canopée. Nous aussi on s'enforeste, le temps d'un bivouac sur France Inter, avec Édouard Cortès, auteur de Par la force des arbres aux éditions Équateur, et Polo Epan qui chante Canopée.
Il en faut peu pour toi et moi. Prenons racine.
d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter.
Pour moi, un arbre, c'est une antenne vivante. C'est une antenne vivante entre le ciel et la terre. Et c'est un oasis de vie. Là, on est près d'un chêne. On a évalué qu'un chêne va vivre en lien avec à peu près 250 espèces animales, végétales et micro-vies, quoi. Entre les champignons du sol, les mousses, les lichens qui vivent sur son écorce, tous les insectes, les oiseaux, les petits animaux, il y a à peu près 250 espèces qui vivent en lien avec le chêne. Et les arbres sont tous un petit peu comme ça. Donc pour moi, c'est ça, c'est des antennes, c'est des capteurs d'énergie qui vont dynamiser toute forme de vie. Profitons-en.
L'agroécologue Marc Grolimoun sur France Culture dans l'émission Sur les docks en 2014. Édouard Cortès, les arbres capteurs d'énergie qui vont dynamiser toute forme de vie. Vous l'avez ressenti en quelque sorte, hein, le chêne dans lequel vous vous êtes installé quand vous étiez au plus mal vous a transmis une partie de son énergie.
Oui, bah déjà la sève brute et la sève élaborée, alors je la sentais pas passer sous l'écorce, ouais. Mais je vibrais avec l'arbre. Et puis c'est quelque chose d'improbable de se dire que l'arbre, en captant le soleil, arrive à faire un espèce de sucre, une énergie pour lui, pour grandir, pour sortir le printemps. C'est improbable, ouais. Un arbre. C'est vraiment tout, on devrait tellement prendre exemple sur l'arbre. Ouais. C'est tellement le contre-exemple de l'idée de toujours plus de techniques ou toujours plus d'avancées ou de progrès. L'arbre, il se contente de très peu, il fait pas de déchets et il produit quelque chose, ouais. Une énergie sans déchets par le soleil. Alors moi, j'ai essayé de capter, de comprendre comment fonctionnait l'arbre et puis de capter un peu de cette clarté, de cette énergie, de cette sève brute. Je me suis éloigné du digital pour aller au végétal.
Oui, c'est ça, la formule est belle. C'est vrai que vous vous émerveillez devant ce qu'est capable de faire votre chêne, comme tous les chênes, mais 200 litres d'eau, il pompe dans le sol, 200 litres d'eau qu'il fait monter dans son tronc pour que l'eau s'évapore par les pores de ses feuilles. C'est vrai que c'est phénoménal quand on y pense.
Oui, c'est assez incroyable. Mais il ne faudrait pas voir l'arbre uniquement comme un système. Ouais. C'était très bien dit de voir qu'il y a 250 espèces qui gravitent autour du chêne, qui vivent avec ou pour le chêne. Et j'aime beaucoup cette idée de la symbiose. Mais elle est très difficile quand on va essayer de la calculer, la voir, etc. Elle est très difficile à voir. Et d'ailleurs, on n'en finira pas dans le microscopique ou dans le grand. On n'en finira pas d'essayer de découvrir toutes les symbioses qui sont autour de l'arbre et tout ce que l'arbre nous apporte. Et j'aime bien avoir ce regard juste de me dire il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Donc j'ai plus un regard poétique sur tout en sachant évidemment que tout est lié, que de l'oiseau au ver de terre, l'oiseau qui vient sur la branche, le pic qui vient creuser le trou dans les branches mortes du chêne, tout ça est lié.
Alors toutes les formes de vie vous intéressent, vous avez un regard poétique mais aussi un peu naturaliste parce que votre arbre, vous allez mais littéralement le scruter à la loupe, hein. Vous passez des heures entières sur les branches à regarder les mousses, les lichens. Vous dites, je rentre par effraction dans une bijouterie du végétal. Vous êtes complètement sous le charme.
Je suis fasciné, exactement comme j'ai été fasciné en voyageant, en découvrant d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres paysages. Je me rappelle au lac de Bandé-Amir en Afghanistan où j'avais été émerveillé devant ces 7 lacs, ces 7 petits joyaux. Et quand j'ai posé ma loupe sur les lichens, j'avais l'impression d'être dans un autre pays. J'avais l'impression de faire un voyage. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a dans ce voyage immobile, il y a quelque chose d'extraordinaire. Proust disait le véritable voyage, ce n'est pas celui d'aller chercher du dépaysement par les lieux, mais c'est celui de changer son regard. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, c'est de renouveler mon regard sur le merveilleux. Parce que le merveilleux, en France, on n'en manque pas, dans une forêt surtout. Et en plus, si on s'intéresse à un arbre, si on s'intéresse en regardant, on peut prendre une loupe, mais tout simplement en observant à l'œil, je crois que c'est plutôt notre regard, en tous les cas le mien, qui manquait au merveilleux, et je l'ai petit à petit, au fil du printemps, retrouvé.
Alors à vous, le grand voyageur qui est devenu adepte du voyage immobile, je voudrais vous faire entendre quelques mots d'Ella Maillard, photographe et écrivaine suisse qui a parcouru l'Asie au début du XXe siècle, souvent à pied. La voici évoquant les raisons qui l'ont poussé à prendre la route.
Mais rien de tel que de voyager pour apprendre à se connaître. Et plus on voyage, plus on se connaît sous différentes latitudes en se comparant à d'autres. Il faut prendre le bâton de pèlerin et partir à la découverte de soi-même. Ça, j'en suis persuadée. La plupart des gens ne cherchent pas. Je pense qu'ils attendent. Parce que c'est difficile de trouver quelque chose qu'on ne sait pas. Tout le monde cherche un équilibre et un bonheur. Ça, je suis persuadée.
Ça, l'équilibre et le bonheur, vous l'avez cherché. Le bâton de pèlerin aussi, vous l'avez pris de nombreuses fois. Vous êtes allé de Paris à Jérusalem, 6000 km à pied, de Paris à Rome, en famille, avec une charrette. Vos enfants en très bas âge, une charrette tirée par un âne. Et là encore, un très long périple que vous avez fait. Vous avez fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces heures, ces jours, ces semaines à marcher, vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous nous dites finalement, dans mon arbre immobile, j'ai fait un voyage intérieur presque plus fort que tous ces pèlerinages.
Je crois, j'aime beaucoup les mots d'Ella Maillard. Elle dit une phrase qui pourrait exactement illustrer ce que vous venez de me dire sur le pèlerinage ou l'ambivalence entre est-ce qu'il faut rester auprès de son arbre ou est-ce qu'il faut quitter son arbre et aller voyager au loin. Ella Maillard dit « il faut aller voir ». Et je crois que ça résume très bien l'esprit de l'exploration, l'esprit de découverte. Et là, j'ai essayé d'aller voir, d'aller au-delà de mes connaissances, d'aller au-delà de mon petit moi, et d'essayer d'être humble par rapport à la nature, par rapport à la forêt, par rapport à l'arbre, et de découvrir une partie, une facette de cet arbre. Donc je suis allé voir l'arbre. Comme une rencontre pendant un voyage, j'ai rencontré un chêne et j'ai passé du temps avec ce chêne. Et c'est pour ça qu'il y a toujours évidemment une ambivalence, une oscillation entre celui qui veut aller au loin et celui qui veut rester auprès de son arbre. Mais c'est difficile de les opposer en permanence. On est pétri de paradoxes. Et donc, moi, j'essaye de composer avec ces paradoxes. Mais je crois que la sagesse aussi, de temps en temps, c'est de pouvoir rester auprès de son arbre, comme le chantait Brassens.
Et la meilleure façon, vous semblez dire, quand même, que la meilleure façon de voir la nature, ce n'est pas d'avancer vers elle, de la traverser, mais de se laisser, je reprends un peu vos formules, de se laisser traverser par elle. Quand on ne fait que passer, on dérange le milieu qu'on traverse. Quand on s'immobilise, le milieu que l'on traverse vient à nous et on le perçoit réellement.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la forêt. On peut marcher en forêt. C'est merveilleux de marcher en forêt. Mais il suffit de s'arrêter auprès d'un arbre ou de s'asseoir sur la mousse ou sur le lierre. Et alors, tout d'un coup, on passe du temps. Au bout de 10 minutes, 5 minutes, les animaux s'habituent à nous et ils viennent nous regarder. Et je trouve ça merveilleux parce qu'on a l'impression d'être dedans plus que de traverser. Et c'est ce que j'ai cherché. D'ailleurs, ça fait partie de la quête intérieure dont parle très bien Ella Maillard. C'est-à-dire ce continent intérieur, on le cherche aussi quand le singulier vient à soi. Or, le singulier, il n'y a pas besoin d'aller le chercher au loin, au lointain, surtout qu'aujourd'hui, confinés comme nous sommes, c'est hélas, les voyages nous sont coupés. Donc, il suffit pas d'aller très loin, il suffit d'aller dans une forêt française. Chaque Français est à moins de 30 minutes d'une forêt. On devrait mettre sur nos attestations qu'on va en pleine nature ou qu'on va voir un arbre, qu'on va rencontrer un arbre. On devrait pouvoir avoir accès aux arbres, en fait, pour avoir un peu de respiration et rentrer dans le minuscule et puis se dépayser, avoir vraiment une nouvelle respiration de l'air.
Alors, quand vous vous êtes réfugié dans cet arbre, vous étiez au plus mal, vous aviez des idées suicidaires, et vous avez senti, hein, on l'entend, au fil des semaines, que ça allait mieux, que vous aviez repris goût à la vie, envie de vous battre. Alors, comment on redescend? Une fois que la magie a opéré, qu'effectivement, on se sent mieux, comment on redescend de son arbre où vous étiez si bien? Il y a, sur la page Facebook, on est en direct, alors on a les réactions des auditeurs. Carole qui nous dit, ça fait penser au baron Perché d'Italo Calvino, qui lui ne veut pas redescendre de son arbre. Alors vous, comment vous avez pris la décision de redescendre?
Ah, si j'avais su qu'il y aurait eu un virus, je serais resté confiné dans mon arbre.
C'était en 2019, hein, ouais, c'est-à-dire que
exactement,
c'était un an...
juste avant ouais. les grands confinements, mais si, ouais. Je serais resté dans mon arbre. Mais non, je suis redescendu dans mon arbre parce que j'avais par le merveilleux, par le singulier. J'ai dégagé une petite philosophie des forêts qui m'a réconcilié avec les hommes. C'est peut-être le merveilleux qui m'a réconcilié. La beauté du monde, je savais qu'elle existait, mais j'arrivais plus à me connecter à elle. Et le fait de lâcher les connexions, Internet, le réseau, le téléphone, etc., tout ce qui en fait nous coupe, qui sont des écrans de fumée à la beauté du monde, le fait de m'extraire un petit temps, 3 mois, c'est pas très long, mais c'est déjà suffisant pour se rendre à l'évidence que la beauté existe, que on est des êtres de relation, et donc il me fallait redescendre. Et je suis redescendu sans doute parce qu'une certaine paix s'était dégagée à travers le minuscule et l'immensité. Vous savez, on dit très bien que les arbres sont la connexion entre la terre et le ciel, et j'avais l'impression d'être un peu reconnecté grâce à l'arbre.
Vous repartirez sur les routes maintenant que vous avez pris goût au voyage immobile ?
Oui. Je pense que ma prochaine destination, ce seront des forêts, sans doute. Oui, ça c'est sûr.
Mais peut-être des forêts plus lointaines ?
J'aimerais bien les forêts européennes, pourquoi pas, ou les grandes forêts primaires, mais je ne sais pas, j'ai des fourmis dans la jambe, ça c'est sûr, mais vu les conditions dans lesquelles le monde évolue, ce sera aux arbres.
Ouais, votre arbre vous a refilé des fourmis. Merci Édouard Cortès, je rappelle le titre de votre livre, Par la force des arbres, aux éditions Équateur. Vous restez avec nous dans un instant, on prend la mer, cette fois avec le compositeur de musique électronique Molécule, qui a truffé de micros le bateau du skipper Thomas Ruyant, pour nous faire vivre le vent des globes au plus près.
J'allais du soleil, j'allais du soleil. Impression, soleil levant, un frisson à l'éveil du vent, les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Les bimbo-toc, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur Malora. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura Malora. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable, allongé sur son drap bleu. Jaloux du soleil. 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 Jaloux du soleil.
C'était Jaloux du soleil, Alain Souchon, et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Merci les gars. Salut. Merci.
5, 4, 3, 2, 1. Top départ.
Ces sons ont été enregistrés dimanche dernier à bord du voilier Linked Out du skipper Thomas Ruyan au moment du départ du Vendée Globe. Enregistrement effectué grâce au micro du musicien Romain Delahaye alias Molécule qui vient de nous rejoindre. Bonjour Romain Delahaye.
Bonjour.
Alors dans quel but avez-vous équipé le voilier de Thomas Ruyan de micro et de caméra aussi ?
Dans l'objectif de faire réaliser mon premier film aux côtés de Vincent Bonnemazou à la co-réalisation, toujours un peu dans ma quête et dans ma recherche du rapport de l'homme à la nature, aux éléments. Mmh. Voilà, le Vendée Globe est une aventure qui symbolise bien cette notion.
Et alors, avant le départ, vous avez passé 2 jours de régate à bord du bateau de Thomas Ruyan. Comment vous avez vécu ces 2 jours?
Bah oui, j'ai eu le privilège de faire une course officielle aux côtés de Thomas. C'était un peu l'idée de voir un peu comment sonne cet instrument, hein, puisque c'est un véritable instrument de musique, hein, avec sa coque en carbone, sa coque de résonance, son mât creux, des câbles, des voiles, des foils qui pénètrent l'eau, qui vibrent, qui résonnent. Et du coup, j'ai réalisé après un placement de ces 16 micros à des endroits bien spécifiques sur le bateau pour capter tout au long de ces 70 jours de course les sons de cette aventure.
Donc vous avez pu prendre la mesure des capacités sonores de votre instrument de musique en quelque sorte, hein. C'est un peu comme ça que vous le voyez ce bateau.
Ouais, tout à fait, voir comment il réagit aux conditions et puis vivre aussi de manière réelle, expérimentée. Qu'est-ce que la vie à bord de ces bateaux-là ? Parce que c'est un des grands enjeux de ce Vendée Globe, c'est de savoir si ces marins vont tenir près de 70 jours dans des conditions de navigation qui sont vraiment dantesques. Rien n'est fait pour le confort, tout pour la performance. Et du coup, on se cogne, on a du mal à dormir, le bateau gîte tout le temps, c'est évidemment dangereux. Donc l'idée de ce film, c'est aussi de ramener une sorte de témoignage de ce qui est réellement la course autour du monde en solitaire.
Alors il y aura...
Et pour la première fois, d'amener le regard du bateau sur le marin.
Ouais. Alors, c'est ça, le regard du bateau sur le marin. Alors il y aura le film dont vous parlez, mais avec ces enregistrements, vous racontez déjà tous les jours, avec un module d'une minute diffusé sur France Info le matin vers 6h45, la dernière journée de course avec les sons captés la veille. Voici par exemple votre récit du deuxième jour.
Latitude 44 degrés 39 minutes nord, au large du Cap Finistère. Après une nuit calme, à régler les imprévus techniques, Thomas Ruyan affronte une première dépression. Une houle hachée et de fortes rafales de vent à plus de 40 nœuds. Le bateau Linked Out commence à développer tout son potentiel sonore et harmonique. Cap plein ouest, direction le Grand Large.
Ces bateaux sont des Formule 1 des mers, hein. Ils sont aussi très bruyants. Ça peut aller jusqu'à quelle intensité sonore ce type de bateau, Molécule ?
Les volumes sont très importants, effectivement. J'ai des mesures où on atteint les 110 décibels, donc c'est presque assourdissant. Il faut savoir que ces marins mettent des casques pour se protéger du son à certains moments, hein, tellement c'est envahissant.
Alors les micros et les caméras enregistrent-ils en permanence, ou est-ce que Thomas Ruyan qui décide quand est-ce que ça tourne en quelque sorte ?
Alors, on a mis au point un système assez complexe. Je dis on parce qu'il y a toute une équipe avec moi. Je pense notamment à Benoît Gilgue qui m'a vraiment épaulé là-dessus. On a mis en place un dispositif hybride où il y a des enregistrements conscients et des enregistrements inconscients. On est obligé de passer par le navigateur pour déclencher le système parce que les règles de la course font qu'on n'a pas le droit d'avoir une intrusion sur le bateau. Donc Thomas déclenche le système pour une partie consciente d'enregistrement. Mmh. Puis après, il y a une succession d'opérations qui se met en œuvre. jusqu'à l'enregistrer à plusieurs reprises à son insu. Voilà.
D'accord. Donc, dans un premier temps, il déclenche et puis après, aléatoirement, après qu'il ait déclenché, pendant l'heure qui suit, certains micros s'allument. Il a tout de suite accepté ou il s'est dit que ce serait peut-être un peu intrusif quand même pour son intimité à bord ?
Alors c'est très intrusif, la plupart des marins partent aussi justement pour ne plus avoir ce regard et embrasser la solitude de manière profonde. C'est une relation forte, hein, un lien qui nous unit là-dessus et c'est un pacte évidemment pour respecter cette intimité. Le film se fera aussi avec lui à son retour, c'est une forme de on lui demande de décrire sa mémoire en fait, hein, la mémoire de sa course. Donc ça sera son film et l'idée c'est voilà, j'ai créé une sorte de jouet, un dispositif qui très ludique qu'il peut utiliser pour écrire sa mémoire.
Ouais. Alors vous recevez donc toute cette matière brute glanée dans la journée tous les jours et puis ensuite vous écrivez ce petit module pour France Info. Alors avec des fois des focus hein, sur des points très précis. Par exemple, le quatrième jour, vous avez mis en avant le son capté par le micro à l'intérieur du mât. Qu'est-ce qui guide vos choix ? Pourquoi ce jour-là, c'est ce son-là que vous aviez envie de nous faire entendre ?
C'est une bonne question. Je vis la course vraiment de l'intérieur. J'ai le privilège d'avoir Thomas en vacances une fois par semaine. Et puis, tous ces enregistrements qui me parviennent, je vois son classement, je vois les aléas, je regarde les cartes météo. Et donc après, en fonction des micros, de leur placement, il y a des sonorités. L'idée, c'est de proposer aussi aux auditeurs des angles auditifs originaux. Donc là, c'était en pleine nuit, par exemple, dans une mer démontée sur la dépression qu'ils ont eue, qu'ils ont passée là il y a quelques jours. Donc voilà, le mât cogne les câbles à l'intérieur, tout bouge et ça, c'est une formidable caisse de résonance.
Alors tous ces sons glanés, il y aura ce film dont vous nous avez parlé, il y aura aussi un album parce que vous, le compositeur de musique électronique, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, vous avez déjà enregistré des sons à bord d'un chalutier en haute mer pour composer un album qui s'intitulait 60°43 N, vous avez aussi installé vos micros sur la banquise en vivant pendant plusieurs semaines dans un village Inuit, ça a donné l'album moins 22°7. Cette fois, avec ces sons glanés pendant la course, vous allez également composer un nouvel album.
Tout à fait. L'idée, c'est que cet album sera la bande originale du film. Et je tenais vraiment à passer derrière la caméra. L'image a toujours été très importante pour moi dans les différents projets. Et voilà, je continue la collaboration avec un réalisateur, mais je veux vraiment aussi mettre les mains dans la construction de ce film et de ce regard si particulier qu'on va porter sur la course au large.
Vous avez déjà une idée de la couleur, de l'ambiance qui se dégagera de cet album où pour vous tout peut encore arriver?
Oui, tout peut arriver, l'histoire est en train de s'écrire. Après, je vous cache pas que l'expérience de cette course que j'ai faite avec Thomas m'a donné quand même des souvenirs assez marquants. Voilà, donc j'ai quelques perspectives, mais c'est vrai que le film, c'est ce qui est très excitant dans ce projet, hein, c'est une nouveauté aussi pour moi, c'est que je suis à terre, je suis pas en situation comme sur les projets précédents, et donc je vis par procuration, par les yeux et les oreilles de Thomas, cette aventure extraordinaire, qui, pourquoi pas, sera la mienne un jour, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, oui. On pourra un jour vous retrouver sur un bateau du Vendée Globe.
Ah, j'ai dans le coin de la tête de faire une route du Rhum, par exemple.
Ah, très bien. On fera une liaison, on vous aura en ligne ce jour-là.
On s'appellera.
Voilà. Merci, Molécule. Je rappelle que l'on peut découvrir vos récits sonores du Vendée Globe en immersion sur le voilier Linked Out de Thomas Ruyant chaque jour vers 6h45 chez nos amis de France Info ou sur leur site internet. Nous allons mettre les liens sur la page du Temps d'un Bivouac. Un grand merci à vous, Molécule.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast, bien sûr. Et puis pour nous adresser un message, rendez-vous sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac sur laquelle on prend toujours autant de plaisir à vous lire. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on se hisse sur les épaules de Darwin avec Jean-Claude Amezen.